Les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs.
Cette maison d'édition a une devise. Du travail, c'est bien. Du travail sérieux, c'est mieux.
Nous nous occupons de créer des structures nouvelles. Nous laissons les écrivains en faire des chefs-d'œuvre ou des navets.
Si le gag n'apparaît qu'en fin d'exécution, alors là, c'est un vrai plaisir.
Par la bande, épisode 21, l'attrapeur d'images d'Alexandre K. L'objet ressemble à ces romans de Jules Verne des éditions Herzl. Voilà qui nous promet une belle aventure en des contrées lointaines ou des territoires inexplorés. Mais cela est trompeur. L'histoire qui nous est contée ne ressemble que fort peu aux constructions romanesques de hauteur de 20 milieux sous les mers. Ce n'est donc là qu'une image et il faut bien admettre qu'on ne sait jamais ce que l'on voit quand on regarde une image. Encore que, et tout compte fait, c'est quand même un peu de cela qu'il s'agit. De voyage, d'aventure, d'image. De l'aventure d'un homme un peu chat, comme pourrait se traduire son nom, Lowcat, parcourant le monde pour en capturer les images. Lowcat se prénomme Nemo, ce qui en latin, comme chacun sait, signifie personne. Mais il renvoie aussi, dans l'imaginaire collectif de nos contrées, au capitaine Nemo, encore Jules Verne, et à Little Nemo, de Winsor McCay. L'aventure et le rêve, les territoires inexplorés et le monde des songes. C'est sous ce double registre que se déploie l'histoire d'un voyageur qui pourrait bien en cacher un autre, comme dit dans le sous-titre, la biographie cryptée d'un arpenteur du monde. L'identité de cet autre ne nous est jamais révélée. Même dans sa biographie en fin d'ouvrage qui retrace son parcours, son nom n'est pas cité. Mais un indice nous en est donné en quatrième de couverture. La phrase que l'on peut y lire est celle qui ouvre La Jetée, court-métrage d'anticipation réalisé par Chris Marker. Cette phrase, ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance, plus qu'un indice, énonce aussi ce qui organise la tension du récit. Sa tension est celle de deux images. La première, une vieille gravure de l'allée des Ming en Chine, dans laquelle Nemo, enfant, s'imagine déambuler adulte, fonde et précède le récit. Elle en est placée en amont, avant même la page de garde. La seconde est le moment où elle se réalise. Nemo, marchant effectivement, si on peut dire, puisqu'il s'agit là encore d'une image, dans cette allée, bien des années plus tard. Si le nom de Chris Marker n'est à aucun moment mentionné, c'est que celui-ci a souhaité qu'il en soit ainsi. Ce photographe cinéaste est un être discret, pour ne pas dire secret, dont l'œuvre témoigne suffisamment de son existence, mais aussi, et surtout, de celle des autres comme de son époque. On peut l'apercevoir dans Tokyo Ga de Wim Wenders, cherchant à cacher son visage d'une caméra qui le filme. Chris Marker est un Nemo, c'est-à-dire une personne, quelqu'un dont le visage nous reste inconnu. A contrario, Nemo Lowcat est présent dans la plupart des 146 dessins légendés constituant le corps de l'ouvrage. Il ressemble un peu à un chat et se promène à travers le monde avec son appareil photo-caméra en appendice fixé sur son dos. C'est un prolongement de lui-même, un organe supplémentaire lui permettant de transformer l'insaisissabilité de l'instant en un fragment d'éternité. Le récit se distribue en 23 chapitres inégales longueur avec, placé au seuil de chacun et occupant toute la page, une ancienne gravure extraite des romans de Jules Verne de chez Herzl, parfois complétée. Ses dessins, très réalistes et solides, illustrant de parfaites fictions, entretiennent un étrange dialogue avec le graphisme stylisé et fragile d'Alexandre K et portant un récit au statut indéterminé. Tout se mêle dans cette narration, fiction, rêve, réalité, et si l'on peut parfois identifier le registre auquel appartient tel ou tel moment de l'histoire, la plupart du temps, un tel partage s'avère difficile. Il faut aussi noter une différence de traitement de ces deux types d'images. Si celles de K sont toutes légendées, les gravures, non. La grande précision, bien que parfois confuse, de ces dernières leur confère une grande lisibilité où la totalité du sens est comme d'emblée affirmée. Mais dans une image, rien n'est jamais définitif et l'absence de légende permet de maintenir ouvert le champ des interprétations. A l'inverse, les images de K, peu définies, flottantes, éminemment polysémiques, semblent contraintes par le texte. Et il est exact que l'image prend son sens par le texte qui la signe, comme le démontre ici K à la suite de Chris Marker, en plaçant sous un même dessin répété trois fois, trois légendes différentes. Mais, dans le même temps, les relations entre les éléments composant l'image permettent de l'ouvrir sur autre chose que ce que clôture la légende. De plus, le texte lui-même, dans un style souvent télégraphique, phrase sans verbe ou verbe à l'infinitif, n'est pas exempt d'une poésie certaine où le sens s'y trouve légèrement dévié. En définitive, si tout est clair dans ce récit, rien n'est jamais vraiment assuré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.
Les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs.
Cette maison d'édition a une devise. Du travail, c'est bien. Du travail. travail sérieux, ça mieux.
Nous nous occupons de créer des structures nouvelles, nous laissons les écrivains en faire des chefs-d'œuvre ou des navets.
Si le gag n'apparaît qu'en fin d'exécution, alors là, c'est un vrai plaisir.